Bonjour, aujourd'hui 22 octobre 1962, la crise des missiles cubains.
Ici New York. Le président Kennedy a prononcé hier soir une allocution d'une extrême importance. S'adressant à la nation, il a annoncé les mesures prises par le gouvernement américain envers Cuba. Ça n'est ni plus ni moins qu'un blocus intégral de l'île. Ceci par mesure de sécurité, afin d'arrêter les installations faites à Cuba de missiles de grande puissance capables de frapper tout l'hémisphère occidental.
Les jours du siècle.
On passe très près de la guerre atomique en 1962. Le 22 octobre à 7h du soir, le président des États-Unis annonce à l'Amérique et au monde que les Soviétiques ont installé des missiles nucléaires à Cuba. Avec les généraux du Pentagone, il vient d'examiner à la loupe les photographies prises à très haute altitude par les avions espions U-2. C'est indéniable, Cuba peut envoyer une charge nucléaire sur les côtes américaines situées à moins de 150 km. Heureusement, c'était Kennedy. Car on sait aujourd'hui, grâce aux conversations enregistrées à la Maison-Blanche, à l'insu des collaborateurs et dévoilées voici quelques semaines à peine, on sait que Kennedy est pratiquement le seul à s'opposer à l'idée d'une invasion américaine à titre préventif. Entre la découverte des missiles le 15 octobre 1962 et le jour où Kennedy annonce sa décision de bloquer tout accès à Cuba, l'angoisse dure une semaine. Bombardement ou blocus, en pleine guerre froide, Kennedy choisit le blocus. Voici un extrait tel qu'il a été diffusé le soir même sur les ondes de l'ORTF.
Acting therefore in the defense of our own security and of the entire Western Hemisphere,
en conséquence, pour la défense de notre sécurité et de tout l'hémisphère occidental, sous l'autorité de la Constitution et du Congrès, j'ai décidé que les premières mesures suivantes seront prises immédiatement. Surveillance de Cuba et de ses installations militaires. Si ces préparations militaires offensives des Russes à Cuba continuaient, d'autres actions seront justifiées. Les forces armées américaines seront prêtes à toute éventualité.
Des faits nouveaux sont donc apparus cet été avec l'ouverture des archives ultra-secrètes de la Maison-Blanche. Nous allons les examiner dans un instant avec notre invité, Vincent Touze, chercheur au Centre d'études sur l'Amérique latine. Monsieur Touze, bonjour.
Bonjour.
Et avant tout, pour bien respecter la chronologie des faits, et c'est particulièrement important dans cette affaire, il convient de revenir sur cette révélation obtenue grâce aux avions espions, les fameux U-2. Alors, qu'est-ce qu'il y avait sur ces photos?
Alors, sur ces fameuses photos, on voit des missiles ou des porteurs de missiles. Il est très intéressant de comprendre pourquoi les Soviétiques se sont fait prendre. Ils n'avaient pas camouflé les missiles, ce qui est très surprenant, puisqu'ils ont fait un énorme effort de camouflage durant le transport des missiles, des ports où les missiles étaient débarqués, vers les sites de missiles. Et pourtant, donc, la CIA n'a eu aucun mal à prendre des photos où on voyait parfaitement les installations. Donc on a beaucoup supputé sur les raisons de cette absence de camouflage. Et il apparaît aujourd'hui que c'est tout simplement les caractéristiques du sol cubain qui est très dur, les conditions climatiques ont fait que les troupes soviétiques sur place ont rencontré des difficultés inattendues, qui ont fait que leur base était particulièrement visible du ciel, qu'ils n'ont pas pu mettre des tentes de camouflage à cause du degré d'humidité, que leurs équipements n'étaient pas tropicalisés. Mmh. Ils pensaient qu'ils allaient pouvoir mettre les missiles sous les palmiers. Or, quiconque connaît Cuba sait que les palmiers sont très espacés, que le couvert qu'ils offrent est très limité, et donc ce n'était pas une hypothèse.
Bon, Kennedy donc impose le blocus, mais on va voir ce que l'on répond à La Havane. Voici la réaction d'un proche de Fidel Castro.
Cada palabra de la déclaration del presidente Kennedy.
Chaque mot de la déclaration du président Kennedy justifiant le blocus de Cuba est une falsification, un mensonge. Alors apparemment, le discours de Kennedy n'a pas impressionné les Cubains. On dirait qu'ils sont prêts à la riposte, Vincent Touze.
Alors en effet, la réponse immédiate au discours de Kennedy, c'était de la part de Castro mettre immédiatement Cuba sur pied de guerre, avec l'intention d'ailleurs très ferme de d'adopter des positions très agressives, ce qu'on verra quand on verra la fin de la crise. Quant à Khrouchtchev, sur le moment, il envoie une lettre très très dure à Kennedy en lui disant je refuse d'accepter les termes de votre message et les bateaux, les navires soviétiques qui vont à Cuba et que vous prétendez interdire d'accès, ils passeront, ils forceront le blocus et au besoin par la force.
Bien, dans la précipitation, comme il se doit, les journalistes d'Interactualité veulent savoir quelle est donc l'ambiance au Kremlin, vous venez de le dire. Je suppose d'ailleurs que Khrouchtchev vit des heures aussi tendues qu'à Washington. Je ne dis pas qu'il avait le doigt sur le bouton atomique, quand même pas, mais il s'en est fallu de peu. Michel Honorat rejoint au téléphone Bernard Ullmann, le correspondant d'Agence France-Presse à Moscou.
Le silence total encore ici au début de l'après-midi sur les intentions du gouvernement soviétique au lendemain du discours fracassant du président Kennedy. Tandis que de tous les coins du monde retentissent les échos de l'avertissement américain que Cuba proclame une mobilisation générale, un porte-parole du ministère soviétique des Affaires étrangères déclarait ce matin qu'il n'avait pas eu le temps encore de prendre connaissance des dernières nouvelles de Washington. Jamais pourtant depuis bien des années, de l'avis général des observateurs de Moscou, la situation n'a paru aussi menaçante que ce matin. Alors que ces derniers jours régnait ici une atmosphère relativement optimiste quant à la poursuite du dialogue russo-américain sur Berlin, l'arrêt imprévu de M. Gromyko rentrant de Washington à Berlin-Est pour y rencontrer M. Ulbricht laisse présager une relance de la crise là aussi.
Oui, on est en pleine crise. Alors, quels sont les scénarios imaginables à ce moment-là?
Alors, Kennedy, en fait, annonce la présence des missiles le 22, mais il sait qu'il y a des missiles à Cuba le 16. Donc, il a pris tout ce délai pour réfléchir. Les deux principales hypothèses qui ont été évoquées, c'était le raid aérien et donc le fameux blocus. Mmh. Il y avait d'autres hypothèses comme l'invasion, mais très peu de gens y étaient favorables. Il y avait aussi une autre option qui était de ne rien faire. Option qui n'a été jamais évoquée sérieusement.
Il faudra attendre cependant 35 ans pour connaître en tout cas la teneur des conversations de ces heures dramatiques qui avaient précédé la décision de Kennedy. Il s'agit de conversations secrètes à la Maison Blanche pendant ce sale week-end après la découverte des photographies aériennes. Alors comment ont-elles été enregistrées ces conversations, Vincent Touze?
Dans des conditions un peu artisanales, ce qui fait d'ailleurs que les bandes sont de qualité extrêmement inégale. Kennedy avait tout simplement mettre très peu de micros, deux ou trois, vraisemblablement d'ailleurs positionnés dans les tables ou tout près des tables, puisqu'on entend parfaitement tous les bruits de jambes, de verres posés sur les tables, etc.
C'était une habitude ou c'était pour cette réunion?
Alors, c'était pas une habitude, puisque c'était relativement récent. Ça n'était qu'à la fin de l'année 61 que Kennedy a commencé à enregistrer. Et à la différence de Nixon, qui bizarrement enregistrait tout avec un système automatique, Kennedy décidait librement, j'enregistre ou j'enregistre pas. Uh-huh. Il disait à sa secrétaire, avec un petit bouton, vous pouvez enregistrer.
Uh-huh. Voilà. Alors, mais les autres n'étaient pas dupes, ils savaient qu'ils étaient enregistrés.
Non. Tout le monde se doute de ça, parce que malheureusement, dans certains milieux, c'est peut-être une coutume. Ouais. Mais quand ça a été révélé, tous les conseillers de Kennedy ont été sidérés. Le seul dont on peut penser qu'il était peut-être au courant, mais il n'est pas là pour le dire, c'est Robert Kennedy. Mais vraisemblablement, les gens qui étaient dans la confidence, c'était Kennedy et ses secrétaires.
Alors justement, qui est dans le bureau à ce moment-là?
Alors qui est dans le bureau durant ces réunions? C'est vraiment les conseillers les plus proches de Kennedy, ou des gens qui n'auraient pas au premier abord des choses à faire dans ce bureau, dans ces circonstances, comme le secrétaire au Trésor Douglas Dillon, mais des gens qui Kennedy a grande confiance. Donc c'est vraiment les gens, les ministres directement concernés, comme le secrétaire à la Défense, et puis des gens qui Kennedy a particulièrement confiance.
Ah, ces archives, ces enregistrements sont restés propriété de Kennedy ou est-ce qu'il a dû les laisser à la Maison Blanche?
Alors, c'était des archives de la famille Kennedy, et la famille Kennedy les a données aux archives nationales américaines.
D'accord. Alors, voici, grâce à vous, Vincent Touze, un aperçu du dialogue entre le président des États-Unis et ses chefs d'état-major. Il faut bien préciser que nous sommes le 19 octobre. Le président vient de dire que s'il attaque Cuba, les soviétiques auront un prétexte tout fait pour s'emparer de la totalité de Berlin. Le général Curtis LeMay, chef de l'US Air Force, propose tout de même une intervention directe sur Cuba. Et David Shope, commandant des marines, est de son avis. On écoute la suite. Kennedy.
À votre avis, quelles seraient les représailles?
Le général LeMay.
Je ne pense pas qu'il y en aura. Si on nous dit que la situation à Berlin reste inchangée, s'il bouge, nous le battrons. Je pense que cela change rien à la situation à Berlin. Ce blocus ne peut que nous mener à la guerre. C'est presque aussi dangereux que Munich. Je ne vois pas d'autre solution qu'une intervention militaire directe et tout de suite.
David Chop.
Si on veut vraiment contrôler la situation là-bas et installer un nouveau gouvernement qui ne serait pas communiste, alors il faut envahir. Et si c'est vraiment la décision que nous prenons, alors il faut y aller plein d'assurance pour une victoire décisive aussi rapide que possible.
Général Lemay.
Un blocus et des porte-parole politiques seraient considérés par beaucoup de nos amis et des pays neutres comme une réponse bien faible à ce problème. Et je suis sûr que nombreux seraient nos concitoyens qui penseraient la même chose. Vous êtes dans un sale pétrin en ce moment.
Kennedy.
Que dites-vous?
Général Lemay.
Que vous êtes dans un sale pétrin.
Kennedy.
Vous y êtes avec moi tout le temps.
Kennedy.
Le raisonnement logique, c'est qu'il n'est pas vraiment nécessaire d'envahir Cuba. C'est simplement le genre de difficulté avec lequel nous devons apprendre à vivre, de même que nous cohabitons avec l'Union soviétique et la Chine. Je pense que nous devons garder à l'esprit que l'existence de ces missiles ne crée pas de nouveaux dangers en ce moment. Ils sont suffisamment armés comme ça.
Oui, on n'en sait pas autant sur ce qui s'est passé au Kremlin. Peut-être un jour, Vincent Tose.
On a quand même une idée très claire maintenant de ce qui se passait au Kremlin, puisqu'il y a des documents, des procès-verbaux. Donc,
Est-ce que Khrouchtchev avait fait enregistrer?
Non. Je vous dis non. Ouais. C'est très possible, mais on n'aura jamais trace de ces enregistrements.
Alors, est-ce qu'on sait mieux aujourd'hui, depuis Eltsine, depuis le départ des communistes, si Moscou avait en fait joué un coup de bluff ou si c'était vraiment une volonté d'armer Cuba?
Alors, on a désormais, les archives soviétiques s'ouvrent et les dernières publications permettent d'y voir à peu près clair. On sait que Khrouchtchev a pris ce grand pari pour deux raisons. D'abord, il était certainement très persuadé que Cuba allait subir à brève échéance une attaque américaine. Parce que l'année précédente, il y avait eu un débarquement raté, le débarquement de la baie des Cochons, oui, d'exilés anticastristes. Et les Russes pensaient qu'après cet échec, les Américains n'auraient plus d'autre choix que l'invasion directe. Et il faut savoir aussi qu'il y avait une opération qui s'appelait opération Mangouste, une opération d'action subversive, de sabotage, etc., qui était en cours à Cuba, dirigée directement par Kennedy, et que cette opération était quand même visible dans ces manifestations, même si Khrouchtchev ne la connaissait pas exactement. Donc ça, c'est le premier but. Le deuxième but, à l'époque, contrairement à toute la propagande qu'avait fait l'URSS, Khrouchtchev sait qu'il est en infériorité nucléaire numérique très évidente, et notamment pour son potentiel de missiles à longue portée. Donc autant les Américains étaient relativement puissants pour frapper le territoire russe des États-Unis, Khrouchtchev peut très peu faire de même. On sait qu'il avait peut-être moins de 10 missiles à l'époque. Donc en mettant des missiles à moyenne portée à Cuba, il peut frapper directement le territoire américain et, pour un coût faible, il a augmenté de 80% sa capacité de frappe.
Oui. Le lobby anti-castriste à Miami, a-t-il été mis au courant de ces fameuses photographies avant la décision de Kennedy?
Non, il n'y a pas eu de... Les seules relations qu'il y avait entre les anti-castristes et Kennedy étaient des relations avec le chef des exilés qui était Miro Cardona. Sinon, les relations se faisaient via la CIA.
Oui, lui, il aurait préféré une invasion, je suppose.
Bien sûr. D'ailleurs, il faut savoir que les exilés anticastristes, à l'issue de la crise de Cuba, ont considéré que Kennedy les avait trahis.
Avez-vous l'impression quand même, Vincent Tous, qu'en cette deuxième quinzaine de novembre 1962, le monde a failli vraiment basculer dans la guerre, la Troisième Guerre mondiale?
Alors ça, c'est certain, à beaucoup d'égards. Alors, on sait quand même, et ça c'est très important, que les deux leaders, Kennedy et Khrouchtchev, on peut les remercier, puisque c'est une date très contemporaine, ils ont joué certainement un rôle majeur pour que la paix du monde soit conservée, même à longue échéance. Parce que si la crise s'était résolue pacifiquement, mais dans des conditions très difficiles, ça aurait été peut-être la porte ouverte à de grandes difficultés entre les deux superpuissances dans les années qui auraient suivi. Donc là, tous deux ont su mettre une fin pacifique, et on sait qu'aucun d'eux à aucun moment n'a poussé à des options militaires et qu'ils ont toujours été très très prudents. Alors, ceci dit, il est possible qu'ils aient pu être amenés à le faire. Donc Kennedy, on voit toujours que Kennedy est très très modéré. Vous avez dit que c'était un des plus modérés du gouvernement américain, et fort heureusement c'était le président. Mais en fait, les deux premiers jours, le 16 et le 17 octobre, Kennedy est très clairement en faveur du bombardement. Il ne change d'avis que le 18. Et en fait, donc, s'il avait été acculé à prendre une décision tout de suite, on peut se poser la question, peut-être aurait-il déclenché un bombardement. On sait aussi que le dernier jour de la crise, alors qu'il est sous une pression intense de certains de ses conseillers, et pas des moindres, pour déclencher un bombardement aérien, qui pourrait être d'ailleurs le préalable à ce moment-là à une invasion, parce qu'une fois qu'on a mis le doigt dans l'engrenage, on ne sait pas où ça mène. On sait que parmi les options qui étaient ouvertes pour mettre une pression supplémentaire sur les Soviétiques, commencer à mettre une pression éventuellement armée, Kennedy envisageait très sérieusement de détruire l'ensemble des batteries de missiles anti-aériens qui avaient tiré ce jour-là, le 27 octobre, sur un des avions espions américains, faisant la seule victime de toute la crise, le pilote de cet avion. Ouais. Donc, il était prêt à lancer une action armée.
C'était une opération militaire possible, réalisable sans trop de dégâts.
C'était une opération militaire possible, planifiable très très rapidement, oui. Et elle aurait certainement fait pas mal de dégâts, oui. Puisque de toute façon, ces bases de missiles en anti-aérien avaient des troupes soviétiques, oui, pour les servir, et puis des troupes soviétiques alentour, donc ça aurait été une opération quand même relativement lourde et coûteuse.
Alors dans ce contexte, dans le conflit entre Khrouchtchev et Kennedy, dans ces cas-là, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui fasse le premier pas et qui dise, bon, bah, écoutez, on va pas plus loin. Lequel des deux a fait le premier pas?
Alors, dans un certain sens, Kennedy fait déjà un premier pas, parce qu'il décide pas d'action militaire. Donc il dit, je vais offrir une porte de sortie aux soviétiques, je me contente d'un blocus. C'est une action de force, mais ce n'est pas une action armée. De son côté, Khrouchtchev, qui au début réagit très très violemment, il faut savoir, d'après les procès-verbaux des réunions au Politburo, il semble envisager un certain temps de donner l'autorisation aux forces soviétiques d'utiliser des armes nucléaires tactiques en cas d'invasion américaine. Mais c'est lui qui, très vite, au bout de quelques jours, dit à ses collègues du Politburo, il faut céder. Et il écrit une première lettre à Kennedy, qui est reçue le 26 octobre à Washington.
N'allez pas trop vite, on va revenir sur tous ces points.
D'accord.
Dans un instant.
France Inter, les jours du siècle, 22 octobre 1962, la crise des missiles cubains. Notre invité, Vincent Touze.
C'était Guantanamera, enregistré à Cuba. Alors, au lendemain de la déclaration de Kennedy imposant le blocus à Cuba, tous les journaux du monde, je dirais presque sans exception, titrent évidemment sur le danger de la confrontation entre les deux grands. Et en ce mardi 23 octobre, le lendemain donc, comment réagissait la presse quotidienne française, Stéphanie Duncan?
Eh bien, le discours du président Kennedy et la menace d'un conflit mondial font en effet la une des journaux les 23 et 24 octobre 1962. Aux États-Unis, d'abord, malgré la campagne électorale, la presse fait bloc derrière le président. À la lumière du danger, écrit le Herald Tribune, le programme d'action de M. Kennedy est le minimum qui puisse être fait. Tandis que pour le New York Times, il est clair que Cuba est devenue une base nucléaire en puissance pour l'Union soviétique. Il s'agit donc là pour nous d'une question de vie ou de mort. En Europe, l'accueil est plus mitigé. Le Times de Londres approuve la décision américaine, mais craint aussi le risque d'une erreur de jugement ou un faux pas. Le Daily Telegraph se demande s'il n'aurait pas mieux valu présenter d'abord l'affaire devant l'ONU. En Allemagne fédérale, le journal General Anzeiger redoute que les soviétiques, en représailles, exercent leur pression sur Berlin. En France, La Nation félicite le président américain pour sa réaction rapide et totalement justifiée, dit-il. Dans Combat, Georges Andersen constate aussi que devant la gravité d'une telle menace, le président Kennedy ne pouvait pas ne pas avoir recours à des mesures draconiennes. Dans le même esprit, Raymond Aron, dans le Figaro, remarque que Washington exige aujourd'hui moins de Cuba que Moscou ne l'a fait de la Finlande. Il y tolère un régime idéologiquement hostile, ce qu'il exige simplement de Cuba, c'est que les armements susceptibles de frapper le continent américain soient éliminés. L'éditorial du Monde est plus critique. Il doute des informations américaines sur d'éventuelles armes offensives soviétiques basées à Cuba et soupçonne même le président Kennedy d'intentions électoralistes. La presse communiste crie bien sûr au scandale. C'est une véritable déclaration de guerre que, avec beaucoup d'insolence et de mauvaise foi, M. Kennedy vient de lancer à Cuba, écrit Henri Bordage dans Libération, tandis qu'Yves Moreau écrit dans L'Humanité « Si les menaces américaines étaient mises à exécution, l'agression ne pourrait demeurer sans riposte ».
Oui, ainsi, deux jours après la décision de Kennedy d'imposer le blocus sur Cuba, la situation devient insoluble. Il n'est plus un pays où l'on ne s'interroge sur ce qui se passerait si un navire soviétique est coulé à l'approche de la Havane. Jamais le téléphone n'a autant sonné dans les chancelleries. Il y a un cabinet de crise dans chaque capitale. À Paris, Interactualité fait le point et s'interroge.
Guerre ou paix ? Ce soir, cette nuit, le commandant du cargo soviétique Poltava et le commandant d'un bateau de guerre américain peuvent en décider. Cette nuit, en effet, le premier des 25 cargos soviétiques qui ont mis le cap sur Cuba rencontrera l'un ou l'autre des 100 navires de guerre américains qui font le blocus partiel de Cuba. Couler les navires si c'est nécessaire, a dit Kennedy, si c'est nécessaire. À Moscou, on dit, nous ne céderons pas, et l'on renvoie à l'ambassade des États-Unis la note que celle-ci avait remise sur Cuba. Cela semble insoluble. Mais les diplomates s'affairent, le Conseil de sécurité des Nations Unies tient séance sur séance et pleuvent les textes de compromis.
Le blocus peut s'enliser, certains pensent que c'est parti pour des mois, Vincent Touze.
Alors pendant un certain temps, les Américains ont craint cela, à savoir que Khrouchtchev joue la montre et qu'on se retrouve dans la situation suivante. Les missiles deviennent opérationnels, le blocus est un succès, c'est-à-dire que les bateaux suspects de contenir des armements offensifs ne défient pas les Américains. Mais les Américains se retrouvent sous la menace nucléaire de l'Union soviétique. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ce sont des initiatives soviétiques et cubaines qui amènent à débloquer la situation. Alors qu'on voit que Kennedy est quand même relativement hésitant, même s'il est très clair qu'il aurait fait quelque chose. On n'a pas d'idée sur ce qu'il aurait fait, ça ne peut être que des hypothèses, alors qu'on sait très bien ce que les Soviétiques et les Cubains ont fait. Alors, ce que font les Soviétiques d'abord, c'est Khrouchtchev envoie une première lettre reçue le 26 octobre à Washington. Il propose une garantie pour l'indépendance et le respect de l'intégrité territoriale de Cuba par les Américains, en échange de quoi il serait prêt à retirer ses missiles. Puis dans un deuxième temps, le 27 octobre, un nouveau message qui est cette fois radiodiffusé propose à Kennedy l'échange suivant, en plus des garanties pour Cuba, l'échange avec des missiles américains basés en Turquie.
Mais n'allons pas trop vite. En attendant, l'Europe est inquiète et la France, dans ce contexte de guerre froide, est-ce que la France ne risque pas d'être prise en tampon entre les deux grands? Écoutez le porte-parole du gouvernement français à la sortie du Conseil des ministres.
Le Conseil a marqué la compréhension de la France à l'égard des inquiétudes suscitées à Washington par l'installation récente et croissante d'armes offensives soviétiques à Cuba. Il a pris acte des communications qui lui ont été adressées par le gouvernement américain quant aux mesures de sécurité prescrites par ce gouvernement dans la mer des Caraïbes. Tout en tenant les événements relatifs à Cuba comme distincts de la situation actuelle dans d'autres régions du monde, le Conseil a examiné les conséquences qui pourraient éventuellement en résulter quant à la sécurité de l'Europe. À cet égard, les engagements réciproques qui constituent l'Alliance Atlantique sont et demeurent la base de la politique de la France.
L'Alliance Atlantique pouvait-elle exclure la France d'un éventuel conflit, Vincent Touze ?
Oh, certainement pas, et d'autant moins que le général de Gaulle a été le leader le plus clairement derrière Kennedy. Donc il a fait savoir tout de suite, quand l'émissaire du président Kennedy est venu le voir, je suis derrière vous, s'il y a une guerre, la France est derrière vous. La France aurait pleinement joué son rôle dans l'Alliance Atlantique.
L'Élysée et Matignon ont donc pris bien soin, on l'a entendu, d'isoler le cas de Cuba du reste des conflits qui séparaient les deux blocs. Alors pour mieux comprendre dans quel contexte s'insérait l'affaire des missiles, voyons ce qui se passait ailleurs dans le monde. Nous sommes à la fin du mois de novembre 1962. Stéphanie Duncan.
Aux États-Unis, la ségrégation raciale recule à tout petit pas. Le 1er octobre 62, en effet, pour la première fois, un étudiant noir est admis à l'université du Mississippi. L'Algérie, indépendante depuis 3 mois, est admise à l'ONU le 8 octobre. Quelques jours plus tard, son premier ministre, Ben Bella, se rend en visite officielle aux États-Unis et à Cuba, justement. En France, le général de Gaulle propose aux Français l'élection au suffrage universel du président de la République. Le référendum du 28 octobre lui donnera raison. Les choses bougent aussi dans l'Église catholique. Le 11 octobre 62, le pape Jean XXIII ouvre à Rome le Concile Vatican II.
Et puis le 28 octobre, Radio Moscou annonce le démontage et le remballage des fusées. Ainsi s'achève la phase la plus dangereuse de la crise. Finalement, Kennedy a gagné. Khrouchtchev a cédé contre la promesse des Américains de retirer leurs missiles de Turquie. Et Castro, eh bien, il est déçu, c'est certain. Mais comment est-il sorti de la crise ?
Alors Castro, sans qui la crise n'aurait jamais pu avoir lieu, puisque c'est la crise de Cuba. Et la condition nécessaire à l'éclatement de la crise, c'est quand même que les Cubains acceptent la présence des missiles sur leur sol. Ils le font tout simplement parce qu'ils sont en situation d'agression caractérisée. Et c'est un des enseignements des archives ouvertes ces dernières années, côté américain, qui montre vraiment l'ampleur du désir du gouvernement américain de ses menées effectives pour renverser Castro, avec des plans d'invasion dès fin 1961, des tentatives d'assassinat, l'opération Mangouste, qui est une opération globale, économique, militaire, etc., un soutien très 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 fort aux exilés. Donc on ne peut comprendre la crise et l'éclatement de la crise que si on veut bien comprendre qu'il y a deux logiques dedans. Il y a une logique soviéto-américaine qui rencontre une autre logique, mais qui celle-là renvoie à une histoire qui est beaucoup plus ancienne, c'est-à-dire la confiscation de l'indépendance de Cuba en 1898, quand les États-Unis interviennent dans la guerre d'indépendance cubaine et transforment Cuba en protectorat, ce qu'il a été plus ou moins jusqu'en 1958. Donc c'est face à la révolution cubaine hyper-nationaliste que, je dirais, un enchaînement s'engage entre les États-Unis et Cuba et que finalement Castro, en situation d'agression caractérisée, accepte la présence de ces missiles et déclenche cette crise.
Merci Vincent Touze. À signaler votre article sur la crise des missiles dans la revue des Annales d'Amérique latine et des Caraïbes, publié par le Centre de recherche sur l'Amérique latine et les Caraïbes à Aix-en-Provence. À signaler également des extraits sur Internet avec le son original de ce que nous avons entendu tout à l'heure. Les livres « L'Europe et la crise de Cuba » sous la direction de Maurice Vaïs chez Armand Collin. L'histoire de la menace nucléaire de Georges Le Gelt chez Hachette. Crise à Cuba 61-62 de Claude Delmas chez Complex. De mémoire de Pierre Salinger chez Folio Gallimard. Et puis John Fitzgerald Kennedy par Jacques Legrand aux éditions Chronique. C'était le 22 octobre 1962, la crise des missiles cubains. À la technique, Pierre Laya. Documentation, Janine Marc-Pezet et Rebecca Denante. Archivina, Anne Gallieri. Revue de presse, Stéphanie Duncan. Réalisation, Anne Kobilac.
C'était Les Jours du siècle, une émission de Ladislas de Hoyos.